Et nous, ne sommes pas les mêmes, tout le monde le sait, hein, sans nom de guerre, les trois révolutionnaires russes dont nous allons parler avec chacun un nom fictif. Après tout, c'est pas coupable, hein, en littérature, on sait bien, par exemple, l'autre qui s'appelait Gilles Blasio, ou le Romain s'appelait Farigoul, et que Molière s'appelait Vendée en époque là. S'appelait Vladimir Ulyanov. Je vais vous présenter tout de suite à ce sujet deux remarques préliminaires qui peuvent avoir leur intérêt. Primo, ce n'est pas un véritable slave, pas un grand russe. Vous savez, on appelle la grande Russie, c'est-à-dire le vieux, le grand vieux de Moscovie, avec peut-être regardé Moscou. Et lui, c'est un garçon du sud. Du côté de son père, il serait plutôt même un Kalmouk. Les Ulyanov venaient du bord de la mer Caspienne. Et du côté de sa mère, allemand. Et peut-être même juif, ça n'est pas certain. Sa mère s'appelait Blanc, Véronica Blanc, c'était la fille d'un médecin militaire qui vivait retiré à ce moment-là. Et il y avait des communautés juives au nom de la Volga, où il semble bien que Madame Ulyanov, c'est-à-dire un des êtres blancs, soit sortie. Comme les plans n'ont pas un slave, proprement. Deuxièmement, c'est pas un prolétaire. C'est un garçon qui ne vient pas de la plus basse classe du peuple, pas du tout. C'est un bourgeois. Son père était d'abord instituteur, puis était devenu assez rapidement inspecteur de la région de Simbirsk, et directeur finalement de l'enseignement primaire dans toute cette région de Simbirsk. C'est un personnage assez important, au point même qu'il avait été anobli par le tsar. Alors, deux remarques, c'est pas un slave, deuxièmement, c'est pas un prolétaire. Première remarque qu'on a vue, il y a 9 ans, il est né en 1870, et l'image est de 79, c'est une image de famille, comme ça se voit dans les familles comptes d'un bourgeois. Vous savez, il y a le centre de papa, qui est une grande tête, un peu chauve, comme sera son fils, il a les genoux joints, il a un chapeau de forme sur ses genoux, il y a sa femme, qui est belle, à côté de lui, il y a les 6 enfants, et puis, si vous prenez une loupe et vous regardez bien, il y a le dernier, le plus petit, qui a le coup de droit sur le genou gauche de son père, qui regarde l'objectif, c'est Volodya en famille, Vladimir. Il a l'air doux, sa volonté, et sa mère racontera plus tard, c'était en effet très tendre, très affectueux, en même temps très sportif, ça fait très vivant. Il est arrivé des choses à cet enfant. En particulier un coup, quand il avait 16 ans, 17 ans, à cause de son frère. Son frère aîné, Alexandre, qu'on appelait donc Sacha en famille, faisait des études scientifiques à Saint-Pétersbourg. C'était un révolutionnaire. Il s'était engagé dans un groupe secret pour essayer de tuer le tsar Alexandre III, comme on avait tué le tsar Alexandre II. Tout le groupe qui était rempli de mouches, naturellement, vous avez l'indicateur, a été arrêté. Il a été condamné à mort, mais comme il était le fils de quelqu'un qui était anobli, il avait le droit d'écrire au tsar pour supplier le tsar de transformer sa condamnation à mort en une condamnation de détention à vie. Il a refusé. Sa mère le suppliait de le faire, mais il n'a pas voulu. Par question que je demande au tsar quelque faveur que ce soit. Alors il a été pendu. Notre Vladimir Ulyanov avait 16 ans, 17 ans, et trois le remuer. Deuxièmement, lui qui n'est pas narcissique, c'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup de lui-même, avouera que quand il avait 17-18 ans, il y a un roman qu'il a lu 5 fois, dit-il. Un roman de certain Chernyshevski, ça s'appelait Que faire. C'est un titre qu'il gardera duré dans sa mémoire. Ce roman n'avait pas été autorisé à être publié en volume, il avait paru dans une revue qui s'appelait Le Contemporain, quelque chose comme la LRS Vitan. C'était là-dedans que Tolstoï avait publié ses premiers essais, et c'est uniquement dans Le Contemporain qu'avait paru ce roman. Et bien, dans la bibliothèque du grand-père maternel, Dr. Blanc, il y avait la collection complète du Contemporain, et c'est là que Vladimir Ulyanov a lu ce livre qui l'a profondément marqué. Il y avait en particulier un personnage central qui s'appelait Rakhmetov. Rakhmetov était un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui avait décidé positivement, vous savez, de jouer sa vie à la révolution, de ne rien faire d'autre que de travailler à la révolution. La première chose qui s'est remarquée de notre Vladimir, c'est qu'il avait 17 ans, il s'est inscrit à la faculté de droit de Kazan, et presque tout de suite, 2 mois après, il est exclu. Il est exclu de chaque université parce qu'il a organisé je ne sais quelle subversion. Alors il ne peut plus entrer dans aucune université pour continuer à préparer sa licence de droit. Alors il a travaillé tout seul, mais il était nombreux, vous savez, des garçons dans son cas, et qu'en 91, ça lui fait 21 ans, hein, lorsqu'il va se présenter à cet examen de droit qu'il a préparé tout seul, ils étaient 134 candidats, mais il va être reçu le premier. Donc, vous voulez licencier en droit, qu'est-ce qu'il va faire? Sous l'impression de sa mère, qu'il aime beaucoup, il commence par être avocat à Samara, pas tellement loin de Simbirsk. Ça l'a somme. Pendant un an, il fait un métier d'avocat qui lui paraît sans intérêt, il va aller faire un coup de tête qui correspond à ce qu'est maintenant sa vie intérieure. Il s'est mis à lire Marx à cause de l'influence sans doute de son frère. Et le voilà qui sera à Saint-Pétersbourg alors qu'il n'a guère les moyens de lire, pas moyen d'y travailler. Sa mère a dit qu'elle le soutiendrait. Et il va à Saint-Pétersbourg pour s'occuper d'un mouvement révolutionnaire. Et si on a un petit groupe de jeunes gens, presque tous du reste des bourgeois, mais qui font un comité, s'appelle Union pour la libération du travail. Je crois qu'il faut regarder en mémoire ce titre, Union pour la libération du travail. Ça forme des tracts, ils vont dans les usines, ils font de la propagande, ils sont naturellement surveillés, si bien qu'en 95, il a 25 ans, ils sont tous arrêtés. Ils vont faire 14 mois de préventive, c'est quelque chose, 14 mois de prison préventive. Et quand enfin il sera passé en jugement, c'est pour lui annoncer qu'il aura 4 ans d'exil, 4 ans d'exil en Sibérie. Part pour la Sibérie, il reste un exil pas très terrible, vous savez. L'exil en Sibérie, à ce moment-là, n'était pas effrayant. J'étais beaucoup plus libre que l'imagine, mais des quantités de gens se sauvaient. Mais lui va se sauver, il va faire ses 4 ans en Sibérie, à un endroit qui s'appelle Chechenskoye, et c'est lui en Sibérie qui va se marier. Il va épouser une jeune révolutionnaire qu'il avait connue, qui était sa maîtresse, je crois, lorsqu'il est parti pour là-bas. Elle s'appelle Nadia Klutskaya, elle avait un petit cul, ils sont en 98, donc il a 28 ans, elle a 29 ans. Et elle était fille d'un monsieur qui était mort rapidement, qui avait été révolutionnaire lui-même, elle vivait difficilement avec sa mère, mais elle va suivre les lignes pour devenir sa femme. Le mariage ne pouvait être qu'un mariage religieux à cette époque, alors que l'Église est complètement incroyable. Passoir 4 ans d'exil là-bas, il y travaille, il fait sa première publication importante. Ça s'appelle Le développement du capitalisme en Russie, qui est un ouvrage très marxiste. Nous voilà en 1900, il va libérer qu'est-ce qu'il va faire. Et il a la conviction que ce n'est pas la peine qu'il essaie de travailler en Russie, parce que tous les mouvements révolutionnaires sont pourris de surveillance et de policiers, et comme il peut faire quelque chose d'efficace, c'est à l'extérieur. C'est ce que faisait par exemple le marxiste Plekhanov, le vieux marxiste Plekhanov, qui était l'introducteur du marxisme en Russie et qui disait très jeunesse, parce qu'en Russie, ce n'est pas possible. On avait tenté en 98, c'est-à-dire pendant que Lénine était en exil, on avait tenté de faire un premier congrès des révolutionnaires qui s'appelait à ce moment-là social-démocrate. Un mot qu'ils ont rejeté avec violence dès 1917. Mais pourquoi il s'appelait comme ça? Parce que le marxiste allemand s'appelait les social-démocrates, avec Kautsky, les uns et les autres, et qu'on militait en Russie, c'était les socialistes allemands, alors que social-démocrates. Donc, à Minsk, au milieu de l'année 98, un premier congrès avait tenté de se réunir, ils étaient 9, vous vous rendez compte, 9, simplement, 9 délégués marxistes en Russie. Arrêtez immédiatement. Donc, c'est se rappeler, ça c'est pas possible, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire un effort révolutionnaire en Russie pour demander. Alors, il a décidé de partir pour l'Occident, on le verra à Paris, on le verra à Genève, on le verra à différents endroits, à Vienne par exemple, et c'est de l'extérieur qu'il va essayer d'agir. Il a eu l'idée de lancer, d'ailleurs une idée que Plekhanov avait déjà, de lancer un journal, qui a une décision incertaine, il s'appelait l'ISKRA, ça veut dire s'arrêter l'étincelle. Et l'ISKRA, on essaiera de le faire passer clandestinement comme on pourra aussi. Et puis en 1902, il va publier son deuxième volume, qui s'appelle précisément Que faire? Et vous vous rappelez, c'est le titre du roman de Chernyshevski. C'est un livre extrêmement important, il faut lire de près pour connaître sa pensée, il y a deux points que je veux retenir. Premièrement, il est dit, nous n'accepterons pas, dans notre contenu révolutionnaire, les amateurs. Faut que les gens qui soient là soient engagés corvés sur la moelle, comme dira Trotsky, qui au début on avait fait partie, juste à la moelle. Parce que je ne vois pas des gens qui disent, on a un certain équipe, et de temps en temps, quand on aura un temps libre, on se fera de révolution, mais des gens qui ne font que ça. Et qui sont appointés par le parti qui a moyen, et on trouvera différents moyens pour les faire venir. Premier point. Deuxième point, dit Lénine, il faut une organisation marxiste extrêmement centralisée. Il faut que ce soit un parti où les gens obéissent, avec une direction, et cette direction sera autorisée à donner des ukases. En 2023, il va y avoir le deuxième congrès, le premier c'est Minsk, je vais vous rappeler. Pour le congrès du parti, il avait commencé avec celle qui était pensionnée par la police alors qu'il se réfugie à Londres, et c'est dans ce deuxième congrès du Parti social-démocrate que la coupure dont tout le monde a entendu parler va se produire. La coupure entre bolchevique et menshevique. Vous savez sans doute que bolchevique signifie simplement les majoritaires et menshevique les minoritaires. Là, le parti vraiment se coupe. À partir de cette date, à partir de 1903, il y aura entre Lénine, qui a signé Lénine à partir de 1901 à peu près, sans qu'on sache pourquoi. On ne sait pas. Staline est comparable, ce qui veut dire par son nom Staline, l'homme d'acier. Mais Lénine, on ne sait pas. Bon. Et bien Lénine va se brûler avec un de ceux qui avait fait partie du congrès, qui s'appelait Trotsky, et qui continuera à être très hostile à son égard jusqu'en 1917. Au point que Trotsky va même chose contre lui en 1904, un petit bouquin qui s'appelle Dans les pages d'actuel, où il le traite de Maximilien Lénine, une espèce de Robespierre caricatural. Alors, en 1905, c'est une année importante pour l'évolution russe, vous vous rappelez peut-être, 1905, c'est le 22 janvier qu'on appelle le dimanche russe. Ce jour-là, il y avait eu des foules, ça avait peut-être 10 à 12 000 ouvriers avec leurs femmes et leurs gosses qui étaient venus devant le palais du genre du tsar, qui sont là-dedans, pour le supplier, hein. C'était pas des révoltés, c'était même pas des contestataires. C'est bien qu'ils pensaient au tsar comme au petit père, et qui disaient, mais Vous ne savez pas quelle est leur condition. La rivière Yélène, c'est en chantant des cantiques, en brandissant des icônes, ils étaient dirigés par un peuple assez bizarre de la sagesse, ça peut gâter, mais, et comme ils avançaient vers le palais d'hiver, je ne crois pas que ce soit le diable qui va aller leur retirer, mais la garde, voyant avancer cette foule énorme, assure. Le nombre de morts est incertain, c'est simplement que donc le 22 janvier, on les armes avec les petites feuilles, il y avait les gosses voulaient retirer sur eux, grimpaient dans les arbres, et la garde les tirait comme des moineaux, à fond. Environ 5 000 un millier de morts. Alors ça, c'est un déclenchement. Hein. Il l'apprend, il est mis à son moulage neige, il est fermé les journaux. Peu à peu, on apprend d'autres nouvelles, il y a des grèves, même des grèves générales en Russie. Au mois de juillet, on aura la révolte du cuirassé, la ultime révolte, vous savez, du cuirassé, nous prononçons Potemkin, hein, cuirassé Potemkin, paraît-il, il faut prononcer ça, Potemkin. Et puis, le tsar fait marche arrière, et le voilà qui, le 15 octobre, je crois, lance son manifeste, et l'idée, c'est exceptionnel, une sorte de contrôle sur son absolutisme, à détruire les chambres. Il n'était pas enthousiaste, Lénine. Il disait, c'est pas le moment encore, la Russie est encore trop arriérée, nos idées marxistes sont à peine pénétrées, malgré les désastres de la guerre russe japonaise qui tournait très mal, l'armée est encore très obéissante, une armée d'obéissance passive, par conséquent, il n'y a rien à faire tant qu'on a l'armée contre soi. Mais enfin, il faut voir. Alors, le voilà qui arrive à Saint-Pétersbourg et il a le désagrément de voir que les soviets, que les armes ont autorisé, un soldat de Saint-Pétersbourg, comportait d'abord comme membre et bientôt comme président, Trotsky. Avec qui il était en très mauvais terme. Alors il a l'impression qu'il n'a rien à faire, il surveille quand même ce qui se passe, mais le soviet qui restera rapidement au bout de 50 jours, exactement 50 jours, est arrêté, tout le monde est mis en prison, et lui, qui n'était pas du soviet, mais qui était un observateur, se dit c'est pas le moment, c'est dangereux, il s'est passé à Moscou. En décembre, une véritable insurrection qui a été noyée dans le sang, tant que c'est quand la Russie, pas possible, alors qu'il va se réfugier en Finlande. Attention, vous me direz, la Finlande, c'est la Russie, c'est un territoire d'occupation. Oui, il y avait une certaine économie et la police était moins dangereuse. Parce que les gens, ils vont rester en Finlande, se sentant plus libre, ils ont l'impression qu'on ne fera rien, c'est très inutile, voilà ce retard à la fin de 1807 en Occident. Vous savez, partir de 1807 jusqu'à Rostov, jusqu'à 1814, le mouvement révolutionnaire russe l'a battu de l'aile. Il y avait eu un certain enthousiasme révolutionnaire en 1805, les gens s'étaient mis à espérer, le parti s'était grossi. Puis voilà qu'en 1806, 7 et 8, découragement. Des gens qui avaient pris leur place, déchirer leur carte, nous a fondre son effectif, qui était pas si nombreux. Mais il est intraitable. Lénine est quelqu'un qui pense, quand il a mordu à un endroit, il n'y a jamais. Alors ils surveillent leur taux de subvention, comme ils voient qu'un ami de la Tcharsky, un autre qui avait le Bogdanov, font des considérations philosophiques qui lui déplaisent et qui ne lui paraissent pas directement marxistes, puisqu'ils se remettent à parler de Dieu, et parler de Dieu, c'est évidemment insensé. Alors ils avaient fait un bouquin sur le matérialisme et l'empirio-criticisme, dont je vous dirai un mot dans mon dernier exposé. C'est un livre religieux, mais qu'il faut lire pour connaître ça en fait. C'est un livre, je répète, un pour l'orthodoxie absolue de la doctrine. En 1908, voilà qui est à Paris, il fait quelque chose d'assez courageux et intelligent, il avait créé une école de cadres, c'est-à-dire une gymnase auprès de Paris, école de cadres pour des jeunes révolutionnaires. Il s'arrange pour faire passer en douce avec des faux papiers des jeunes gens qui ont été repérés par les sociodémocrates et qui peuvent être de bons militants. Alors on va les former dans une école de cadres près de Paris. Ils ne sont pas nombreux, vous savez, ils sont une vingtaine, tant pis, même pas. Et des cours sont donnés par diverses personnes, dont notre Lénine. Donne des cours à l'école des cas. 1912. Tout d'un coup, il y a eu la régulation d'une apparente de la politique intérieure russe. La Pravda, c'est-à-dire la vérité, vous savez, qui est le journal de bolchevique, est autorisé à apparaître. Alors, il dit, faut profiter de ça. Je suis un peu trop loin quand je reprends le Sibon, je vais me rapprocher. Le voilà qui va à Cracovie. Cracovie, c'est une terre polonaise, comme vous savez, c'est une terre d'occupation autrichienne. Alors, il n'est pas en territoire russe, mais il est sur le bord de la frontière. Et de là, il peut faire communiquer plus rapidement les papiers qu'il peut, il veut envoyer à la Pravda. Sa femme est malade, elle a un doigt, il l'a fait opérer à Berne, il a enlevé son doigt à Berne, et à cause de la santé faible de Nadia, il va s'établir au début de l'année 14, je crois, à Poronin, dans les Carpates, dans l'altitude. Et c'est là, à Poronin, un territoire autrichien, qu'il va apprendre la déclaration de guerre. C'est la guerre éclate les 2 et 3 août, comme vous savez, 1914. Alors là, il faut bien regarder ce qu'il va faire. Il est bouleversé, absolument bouleversé et indigné de voir le comportement des socialistes français et des socialistes allemands. Les socialistes français, tous, j'aurais aimé mourir, alors on ne sait pas dans ce qu'il aurait fait. Mais les socialistes français vont tous, à l'unanimité, voter des crédits de guerre. Et tous à fond, en Allemagne, les socialistes vont aussi voter des crédits de guerre. Parce que les autres sont convaincus que leur pays est attaqué, et comme ils disaient, leur pays, ils veulent le défendre. Récitation des socialistes français, c'est de dire, mais nous luttons contre le militarisme allemand. L'explication des sociodémocrates russes, c'est de dire mais nous luttons contre l'impérialisme russe et le tsarisme, par conséquent, on peut y aller. Mais lui dit, mais vous trahissez. Marx a dit, les prolétaires n'ont pas de patrie. Par conséquent, au lieu de cette guerre absurde, une guerre de clivage, comment dirais-je, clivage verticaux, de nation en nation, le seul clivage possible, c'est un clivage horizontal. Il y a d'un côté des législateurs et de l'autre des législatés. Je demande donc, disait Lénine, que dans tous ces pays guerrières, le prolétariat se soulève contre les nazis. Que le prolétariat russe se soulève contre le tsar, que le prolétariat allemand se soulève contre l'Empire, que le prolétariat français se soulève contre une République conservatrice. Assez un manifeste. Pas moyen, vous entendez, pas moyen de publier. Personne ne veut publier ce manifeste, ou très carrément, c'est une politique de défaitisme révolutionnaire pour ce pays. Savez-vous qu'il y a un seul journal en Europe qui va le publier, c'est la Sentinelle de l'Âge de Fond, dans son numéro du 30 novembre 1914. C'est la seule fois que le manifeste de Lénine va paraître. Il va tenter en 1915 et en 1916 de réunir les socialistes français et allemands, c'est-à-dire les gens de pays qui sont en lutte, et qui cependant vont se réunir et se serrer la main, première réunion à Zimmerwald, et c'était tout près de Berne. Je crois que c'est en septembre 15, deuxième réunion à Kintal, c'est dans les Arbres Bernois, c'est en avril 1916. Ils sont pas nombreux, ils sont une trentaine. Chaque fois, on essaie de lui donner l'imposer, c'est un manifeste révolutionnaire, en disant, il faut transformer tout de suite cette guerre nationale en une guerre sociale. Pas moyen. Chaque fois, il a des injonctions, des impossibilités. Il travaille, c'est un nouveau livre. Il est à Zurich maintenant, il a commencé à vivre à Berne. Il est à Zurich et il se demande, enfin, il écrit quelque chose qui s'appelle l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et qui est un livre dont la lecture est aujourd'hui encore fort intéressante, c'est un livre qui est nullement périmé. J'attends, grâce à ça, c'est une nouvelle qui peut dire que les Français ne le connaissaient pas, hein, mais que la fasciste connaissait, il la lisait, s'il était à Zurich, un but corrigé à la fin. Les troupes se font battre, ils ont déjà perdu des millions d'hommes, on ne dit pas le chiffre, mais on sait qu'il y a un très grand nombre de prisonniers, et que ça y a des législations dans l'armée, qu'on a plusieurs devoirs à marcher. On sait de voir que dans les grandes villes, il y a un remue-ménage, pas encore les insurrections, ça dit des mouvements, presque des émeutes, où les gens réclament du pain et la paix. C'est brusquement, il va prendre le 15 mars 1917 que le tsar a abdiqué. Grosse nouvelle, hein. À la place du tsar, le gouvernement provisoire. Un gouvernement provisoire présidé par le prince de Waff et qui contient surtout des conservateurs, enfin avec une teinture apparente de libéralisme, et un socialiste, entre guillemets, qui n'appartient pas au parti, qui se dit travailliste, parti de l'histoire, il s'appelle Kerensky. Kerensky, c'est un avocat qui s'était spécialisé pour la défense des révolutionnaires arrêtés. Alors voici le télégramme qui va envoyer immédiatement à la Pravda, date du 16 mars 2017, pas de collaboration avec les GP, méfiance particulière et extrême à l'égard de Kerensky, armement des masses. Il veut donc venir, je ne sais pas comment il dit son sein, il disait possible, pas possible, mais plutôt pas possible. En 1917, il dit la situation intérieure est telle qu'il y a peut-être des chances, on peut peut-être marcher. Il faut qu'il revienne en Russie. Comment faire? Il ne peut pas traverser la France, il ne peut pas traverser l'Angleterre, puisqu'on sait qu'il a fait ce manifeste, puisque la presse n'a pas publié les secondes des chancelleries. On lui interdira donc la traversée du territoire français et du territoire anglais. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de traverser le territoire allemand. Il se rend bien compte que si il traverse le territoire allemand, alors que l'Allemagne est en lutte avec la Russie, il va avoir contrôlé des tas de gens, des autres, un agent allemand, et bien, il parlait des bénéfices de l'Allemagne pour préparer sa victoire. Quand il a demandé ça aux autorités allemandes à Berne, un visa pour traverser l'Allemagne, oh, les Allemands disaient parfait, très bien. Ce sont des révolutionnaires, ils sont 32 à peu près qui veulent suivre les lits, ils vont faire des gradus en Russie, par conséquent, ça nous facilitera la victoire. Il sait très bien tout ça, les lits. Mais il a la certitude qu'il a dupé les Allemands, parce que jamais il a pensé, c'est une fois que je serai en Russie, je ferai de la propagande de l'armée, ça se fait déjà deux fois pour la tête, mais cette armée fera elle-même de la propagande auprès du soldat allemand, et les Allemands qui me laissaient passer, ils ne se rendraient pas compte, ils ne se rendent pas compte que je vais essayer de réorganiser l'intérieur. C'est comme ça qu'il va traverser, non pas dans un wagon plombé, comme il a dit, comme on l'a raconté, simplement dans un wagon ex-territorial, c'est-à-dire qu'il ne sera pas soumis à la douane, quand il passera librement les frontières, il va arriver à Stockholm, il va donc passer par la Suède pour arriver à Petrograd, ça s'appelait Petrograd depuis 1914, et c'est le 16 avril 1917 qu'il débarque à Petrograd. Ça finit par la Marseillaise, parce que figurez-vous que le gouvernement provisoire avait promis à l'ambassadeur de France comme à l'ambassadeur d'Angleterre de faire la guerre sérieusement. Et si même si l'ambassadeur avait été favorable à l'abdication du tsar, c'est qu'il disait que le tsar suspect, et c'était vrai. Suspect à cause de sa femme et de leur père séparé, tandis que nous avons des gens qui nous promettent de faire réellement la guerre. Comprenez que la Marseillaise, ça ne fait guère plaisir à l'ennemi. Et le soir même, se faisant transporter au palais de Smolny, Smolny c'était le quartier général des bolcheviks, il a prononcé le discours terrible qu'on appellera les 13 avril, où il dit la première révolution qui vient de se produire, elle est aussi peu sérieuse que la révolution de 1789 en France, qui a duré 1791. Avec, vous vous rappelez peut-être très bien, il change sans super, enfin, de vos têtes et des riches, et avec un roi qui avait le droit de voter. Tandis, à partir du 1682, ça c'était la révolution, le suffrage universel, avec les gens dans la rue, quoi. Alors, ce jour-là, le 16 avril, il dit qu'une fausse révolution, il faut préparer la véritable révolution. Et d'autre part, il faut faire la paix tout de suite. Imaginez bien que le gouvernement provisoire est sous drague, on organise presque tout de suite, après une grande manifestation patriotique, on va faire défiler des soldats blessés, au début du défilé, il y a des gens, des invalides dans les petites voitures, avec des banderoles qui accusent les mines, pour que tout le monde en fait, en disant qu'un agent allemand, il a l'impression qu'il est allé trop vite, il a freiné, il a donné des instructions pour ne pas aller trop vite et pour ne pas se faire persécuter. Il pense que de l'intérieur, et étant donné les esprits des soldats, il y a moyen de travailler. Les événements vont le servir. Le 1er juillet 1917, c'est ainsi que le ministre de la guerre, tenant la parole, la promesse qu'il a faite aux Alliés, organise une nouvelle et dernière expédition militaire offensive, quoi. En Galicie, parce qu'en Galicie, c'est du côté des Autrichiens, et on espère qu'on en s'en sort plus facilement des Autrichiens des Allemands. Succès pendant 48 heures, le troupeau s'avance, et au bout de 48 heures, les divisions allemandes, proprement dites Paris, refoulent les risques catastrophes, il y a 60 000 morts en quelques jours. Ces nouvelles arrivent à Petrograd, un peu dissimulées, bien entendu, mais enfin, les gens savent que c'est pas une victoire. Et c'est une garnison de Petrograd, 150 000 hommes, hein. 150 000 hommes, la garnison de Petrograd. Ne veulent pour rien au monde être envoyés sur le front, hein. C'est fini pour eux, d'ailleurs. Alors, ils vont faire une manifestation violente dans les rues le 15 et 16 juillet. Le ministre leur avait dit, c'est trop tôt, ne faites pas ça. Ils ont voulu faire cette manifestation. Le parti bolchevique a fini par suivre le mouvement parce que ça ils seront mis à part. Et immédiatement après, une répression policière telle qu'une rafle est organisée de tous les bolcheviques et que le ministre est obligé de s'enfuir. Il arrive à échapper à la rafle. Il va s'enfuir comme il avait fait en 1905, vous savez, en Finlande. Il a même passé la frontière déguisée. Vous savez qu'il avait sa petite barbe russe, hein. C'est un homme russe. Et bien, il a fait couper sa barbe et sa moustache. Il était chauve, alors il avait pris une perruque. Il avait arboré une casquette de cheminot. Il était passé sur une locomotive comme s'il était l'adjoint du chauffeur. Et c'est de Finlande qu'il a envoyé ses instructions à l'intérieur de Petrograd. Le deuxième avantage, c'est au début de septembre, Kornilov, qui était le généralissime, mais qui se révolte contre Kerensky et contre le gouvernement provisoire, qui essaye, ce qu'il voudrait essayer, avec des Cosaques, pour renverser le gouvernement provisoire pour faire revenir le tsar. Ça, c'est quand même tout de suite, les Cosaques ne veulent pas se battre, les ouvriers vont à la rencontre de ces Cosaques et on fraternise avec eux, mais ça va permettre aux bolcheviques de dire, vous savez, Kerensky, hein, qui fait semblant d'être contre Kornilov, en réalité, c'est un homme. Alors, on va déprécier, on va déshonorer Kerensky de cette façon-là. La grande pensée, c'est d'obtenir qu'une majorité s'établisse dans les congrès tant russe des soviets. Dès 1917, de mars 17, les soviets avaient apparu comme en 1905. Ces soviets étaient presque partout dominés par les bolcheviks ou par les SR, les SR, c'est les soviets révolutionnaires, en particulier appuyés par les paysans. Et nous, nous avons cette idée, on ne peut réaliser le coup, on ne peut prendre le pouvoir, qu'une fois que nous aurons une majorité dans ce congrès. Dans le premier congrès du 16 juin, j'ai pris des chiffres, je crois les avoir là. Le 16 juin, il y avait 105 bolcheviks, mais 533 SR, socialistes soviétiques et bolcheviks, on était dans la majorité. Les mois passent avec l'avantage que je viens de signaler, c'est-à-dire que le second congrès, qui va se réunir le 7 et 8 novembre, on a l'impression de laisser les mines qu'on va avoir la majorité. Effectivement, voici les chiffres, il y aura 343 bolcheviks sur 675 mines, petite majorité, mais majorité tout de même. Alors, sa grande pensée, c'est de dire, voyez, nous allons prendre le pouvoir, mais nous sommes les délégués du Soviet. Nous ne sommes pas des gens qui prennent le pouvoir comme ça parce qu'on nous plaît. Nous représentons la volonté des révolutionnaires russes. Ben, l'opération va se passer, vous savez bien, très facilement, les 7 et 8 novembre. Les Russes appellent ça la révolution d'octobre, vous savez. Parce que le calendrier russe n'a été semblable au calendrier de l'Occident, car il ne crée rien, qu'à partir de février 2018. Et nous, nous nous pensions qu'il y avait des mois comme novembre, 6 et 7 novembre. Mais comme ça se passait dans leur calendrier à la fin d'octobre, ils appellent ça leur révolution d'octobre. Eh bien, dans la ligne du 6 au 7 novembre, le pouvoir pratiquement a été ramassé, vous savez, Kerensky n'est plus obéi, la police non plus, par conséquent, il n'y a presque pas de décision de ça. Il y aura juste, vous le savez sans doute, une tentative de résistance qui va s'opérer au palais d'hiver où sont rassemblés les militaires, et les militaires vont être très rapidement réduit à se rendre parce qu'un croiseur existe comme ça, le croiseur Aurora, il a tiré abondamment, puis un seul obus, qui n'a pas été dirigé, qui n'a pas dévié à une vieille tuile dans le jardin, ça y est, il se rend, ça arrive qu'il se sauve, c'est fini, faut gagner, le 8 novembre au matin, l'affaire est faite, et le communiqué qui est lancé est le suivant, le gouvernement provisoire est destitué. Le pouvoir de l'État est passé aux mains du comité militaire révolutionnaire, qui est à la fois du prolétariat et de la garnison de Pétrograd. Vous avez remarqué que le mot bolchevique n'est pas prononcé là. En apparence, ce n'est pas un parti du pouvoir, c'est un comité militaire révolutionnaire. Avec quoi, prolétariat d'une part, donc les ouvriers, les îles, tout il a fait les autres, et garnison de Pétrograd. En fait, vous savez bien que c'est le parti qui gouverne. Il va y avoir le chef Narcom, ça veut dire conseil des ministres, mais on ne veut pas employer ce mot ministre parce qu'il fait bourgeois. On décidera que ce s'appelle le commissaire du peuple, et le chef Narcom ne sera composé au début exclusivement de bolcheviques. Ils ont présenté, c'est malheureux, une situation infernale, vraiment impossible, vous savez, dans les premiers jours. J'ajoute ce qui n'avait pas été tellement entaché les conseillers maintenant aujourd'hui, qu'il y a une orgie vraiment de soudrie, à Pétrograd et à Moscou. Les prolétaires d'une part, les soldats d'autre part, il n'y a plus de contrôle maintenant, se précipite sur les bisous, il ne tue personne, il se jette sur les caves. Et pendant plus de 10 jours, presque 15 jours, les rues de Moscou vont être encombrées, le pauvre chef Narcom va faire ce qu'il pourrait, il y aura des pompiers pour essayer de noyer les caves et les pompiers pour eux-mêmes se noyer à l'école, après, ça va durer un certain temps. C'était presque un avantage, pendant qu'ils boivent, ces gens qui chantent, ils tentent pas politique. Alors le gouvernement va pouvoir s'annuler et fermer tout. Mais la situation est impossible, parfois les administrations sont dépeuplées, parce que la plupart des fonctionnaires s'en vont, parce que rien ne dit plus, et que la situation du point de vue du ravitaillement et du point de vue de la guerre est une situation dramatique. C'est ce que j'ai envie de vous expliquer dans mon prochain exposé, mais je veux appeler votre attention sur le fait que ces quelques révolutionnaires, ces tout petits groupes, enfin, ces petites poignées de gens bolcheviques qui ont entre leurs mains la Russie et qui croient l'avoir entre leurs mains, sont confrontés à une situation qui semble absolument inexplicable, et on peut dire que les miracles, entre guillemets, qui a pu accomplir le comité de salut public en 1894, ne font rien auprès de ce que va avoir à surmonter le seul Narcom, et très particulièrement Lénine et Gorbatchev.
Vous vous rappelez peut-être qu'à la fin de la première partie de mon exposé, j'en ai arrivé au moment où, le 8 novembre 1917, Lénine et le parti bolchevique prennent le pouvoir. Je vous avais dit que ça a été une situation affreuse, invraisemblable. On se demande comment ils allaient pouvoir s'en tirer. Alors je vais vous expliquer tout ça, mais il faut que vous ayez dans l'esprit l'idée que tout se passe en même temps. Moi, je suis bien obligé chronologiquement de séparer les problèmes de la paix, problèmes des paysans, et tout ça s'entrecroise, et ça cumule. Et ça constitue une situation infernale. Premièrement, le problème de la paix. Il n'avait réussi, vous savez, le parti, il avait réussi à prendre le pouvoir, c'est parce qu'il était soutenu par la garnison de Pétrograd. Il était énorme, hein. 150 000 soldats dans Pétrograd. Pourquoi? Parce que le pouvoir tsariste avait peur de la révolution, de l'agitation. Il avait mis une énorme garnison pour faire tenir tranquille les ouvriers. Là, justement, cette garnison ne voulait à aucun prix continuer la guerre, tellement ils avaient perdu d'âme. Alors, les bolcheviques et les lignes, qui ont les yeux ouverts, se disent, on ne peut être soutenu, on peut garder le pouvoir que si nous donnons immédiatement aux soldats ce qu'on leur a promis, c'est-à-dire la paix. Alors, immédiatement, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils font savoir aux Allemands, qui se battaient depuis des années, que des négociations d'armistice doivent s'ouvrir. Les Allemands se frottent aux mains, naturellement, et font une proposition assez ironique. Avec des figures graves, hein. Ils disent, vous-même, les marxistes, vous dites que la Russie était une prison de peuple, que la Russie a des peuples esclaves, que les carnes étaient des conquérants. Alors, nous vous demandons simplement de renoncer à vos conquêtes. Par exemple, la Pologne va devenir indépendante. Par exemple, les pays baltes que vous avez dévorés doivent devenir indépendants. Par exemple, l'Ukraine, où il y a des mouvements centrifuges, doit avoir son autonomie. En somme, on vous demande d'être fidèle à votre idéal. Ça, ils prennent ça très mal. Hein. C'est vrai que Lénine était un marxiste, c'est vrai que Marx avait dit que les prolétaires n'ont pas de patrie, mais maintenant qu'il a la responsabilité de l'État russe, je vous assure que ça lui fait peine de lâcher du territoire. Alors ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus de soldats, ils ne veulent pas se battre. On avait essayé en janvier, je crois, oui, le 15 janvier, en 1918, de créer une nouvelle armée, qu'on appelait l'armée rouge, mais par volontaire. Vous vous rendez compte, hein, très peu vont entrer. Un tout petit monde en se disant, si on est volontaire, on sera au moins nourri et logé, quoi. En fait, c'est des soldats qui ne voulaient guère se battre et qui auraient été semblables, Trotsky racontera ça plus tard, aux soldats de la commune de Paris. Je ne sais pas si vous savez, c'est tout à fait, hein. Les malheureux soldats de la commune étaient des gens qui touchaient bien à des 1950 par jour, mais qui ne voulaient pas se battre. Alors, on n'avait rien pour résister aux Allemands. De toute façon, au gouvernement, il y avait des gens qui avaient fait entrer à partir du 1er décembre, je crois, qui étaient ces experts dont je vais déjà parler. SR, c'était socialiste révolutionnaire, était non marxiste, mais on les avait mis tout de même au pouvoir parce qu'il semblait qu'il fallait pas en apparence au moins une totalité entre les mains du parti bolchevique. Ben, les SR sont encore plus, entre guillemets, la prudence que les bolcheviques et ne veulent pas entendre parler de ces abandons de territoire à l'Allemagne. Ça fera des drames, vous savez, des tensions très violentes à l'intérieur du Sonarcom. Et au centre du Sonarcom, il y avait le bureau politique et il y avait le comité central. Et d'abord, le comité central, à la fin de février 1918, j'ose presque dire, pardonnez-moi, qu'on s'en veut. Il y a des gens comme Bucarine qui disent, on ne peut pas. Et puis, d'autre part, il y a des gens qui disent, mais avec quoi voulez-vous résister? Alors, c'est le 3 mars 1918 qu'on va tout de même céder à l'Allemagne avec le traité de Brest-Litovsk. Et lui-même, Lénine, le marxiste, Lénine, va dire, c'est une sale paix, une sale paix. Nous sommes obligés de lâcher du terrain pour gagner du temps. Quoi gagner du temps? Ben, ça veut dire qu'on va essayer de continuer notre opération de police intérieure que nous faisons. Les SR, les socialistes révolutionnaires, avaient pris ça très mal. Et je dois vous dire qu'il y avait quelques raisons de très irriter. Les bolcheviques, quand ils faisaient la campagne de la propagande pour arriver au pouvoir, avaient annoncé, mais tout le temps, ça c'est un de leurs thèmes, on va faire une constituante. C'est-à-dire que tout le monde va voter. Pour les élections soviétiques, et vous savez, vous avez raconté, il y avait un congrès pan-russe des soviétiques en juin, deuxième congrès en novembre, tout le monde ne votait pas. Mais les anciens riches et la bourgeoisie étaient écartés du scrutin. C'est que maintenant, on avait dit, la constituante, tout le monde va voter. C'était la première fois environ 20 millions d'électeurs, et cette fois 40 millions. Et Lénine avait dit, je vais vous citer une chose qu'il avait déclarée le 8 novembre 17, donc le jour où il prend le pouvoir, et il dit, même si les paysans élisent à la constituante une majorité SR, nous dirons, soit, nous devons laisser une pleine liberté au génie créateur des masses populaires. Ben, savez-vous le résultat? La constituante, qui s'est réunie le 18 janvier 1918, comptait 174 bolcheviques contre 370, contre 370 SR ou mensheviques. C'est-à-dire que les bolcheviques avaient 25% quoi, de la population. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire le coup d'état de décembre. Alors les têtes de Napoléon Bonaparte décident dans la nuit du 2 au 3 décembre 1851 qu'il n'y aura plus l'Assemblée nationale lorsque les députés viennent le 3 décembre prendre leur place et trouvent l'Assemblée nationale occupée par la troupe. C'est exactement ce que Lénine et le parti bolchevique ont fait le 19 janvier lorsque les députés se sont réunis une première fois et qu'ils viennent pour la seconde réunion. On leur dit non, il y a cette constituante. La constituante a été dissoute par un coup de force. Imaginez qu'ils sont furieux, hein, CSR. Et ils vont aller très loin, ils vont même faire des coups. Le début de juillet, je crois 5 ou 6 juillet, ils vont tenter une espèce de coup de force, mais c'est insuffisant. Ils vont assassiner von Mirbach, qui était l'ambassadeur de l'Allemagne, puisque la paix maintenant est ambassadeur d'Allemagne. C'est un SR, c'est des Blumkin, qui a tué l'ambassadeur d'Allemagne en disant, ça va les mettre si furieux, ils vont reprendre l'opération pour se battre, parce que maintenant on va recommencer à avoir une petite armée russe. Non, Lénine va faire toutes sortes de protestation auprès de l'ambassade d'Allemagne en disant si excuse beaucoup, qu'on va tuer un certain nombre de responsables, en réalité on ne tuera pas Blumkin qui était l'assassin. Mais les SR vont se venger puisqu'ils n'ont rien réussi. Et le 30 août, deux attentats très graves commis par CSR, où ils citent quelque chose là, la Tchéka, la police politique qu'on avait créée dès décembre 1918, est abattue dans les rues de Petrograd. Et le même 30 août, une fille qu'on appelle Fanny Kaplan. D'autres disent que c'est pas Fanny son prénom, Dora Kaplan, j'en sais rien, elle s'appelle Kaplan, tire 3 coups de feu sur les lignes. Essaye de tuer, quoi. 2 balles vont l'atteindre, 1 balle dans l'épaule et 1 balle à la base de la gorge, il va s'en tirer quand même, mais enfin, il va tirer sur les lignes. Alors, à partir de cette date, c'est dans la politique intérieure, la terreur. Et une terreur très précise, très nette. Je peux vous dire, j'ai encore dans l'esprit, un ordre qui est envoyé par le chef Marcon à la Tchéka, en disant partout où il y a des mouvements, saisissez des otages. Et le premier signe de rébellion, fusillez-les en masse. Donc la fameuse terreur de Robespierre et du comité de salut public, elle est multipliée par 100 en Russie parce qu'il y a pas moyen, semble-t-il, de faire autrement. Troisièmement, le problème des paysans. Les paysans, qu'est-ce qu'ils veulent? De même que les soldats voulaient la paix, ils ne peuvent pas se battre, les paysans veulent la paix. Alors dans le programme du parti bolchevique, un programme marxiste, il fallait la collectivisation de la paix. Ce Staline, je dirais, essayera de faire à partir de 1929, c'est-à-dire la terre appartient à l'État, puis les paysans sont groupés dans les seules causes de cause. Comme les SR, eux, disaient aux paysans, j'ai dit, vous allez prendre les terres, vous allez les donner aux propriétaires. Comme il ne faut pas se brouiller avec les paysans, on va camoufler le programme du parti, on ne va pas parler de collectivisation des terres, et on va dire aux paysans, ben ça y est, prenez vos terres, les terres des nobles, les terres de l'aristocratie, enfin je veux dire les terres des prêtres, et allez-y. Mais quand il y avait de grandes propriétés, on pouvait obtenir, les États pouvaient obtenir des fournitures assez normales de ravitaillement pour les îles. Maintenant, 24 millions de petits propriétaires.
Et ces gens qui sont venus pour ravitailler les hommes n'ont rien marché. Or, il faut à tout prix ravitailler les villes. Parce que de même que les soldats se révolteront si on veut les faire battre dans des bâtons de plus, de même si les gens ne sont pas nourris, ils se révolteront. Il faut les nourrir à tout prix dans les villes. Alors pour ça, il faut obtenir les paysans qui ne veulent pas donner. Ça va être un drame épouvantable. Lorsque je vois avec Staline, il y a un mot de Molotov qui me reste encore dans l'esprit, il disait, lorsque Staline a tenté la collectivisation des terres, la campagne russe est devenue une mer bouillonnante. Je vous assure que ce mot s'applique déjà à la paysannerie à partir de 1918. Ils ne veulent rien lâcher, alors on leur envoie des commandos de garde rouge, des commandos militaires, qui leur arrachent leurs petites réserves. Alors ça sera un désastre au point de vue de l'économie, au point de vue de la culture, et puis ce sera aussi des famines. En 1921, ça va y avoir de la Volga, et jusqu'au début de 1922, il y aura des famines. Tout ça mêlé à tout ce que je vous raconte. Et surtout, cette Russie, elle est en voie d'épaissement. Il y a des attaques extérieures et il y a des révoltes intérieures. Attaque extérieure, vous vous rappelez que c'est le 3 mars 1918 que la Russie se retire de la guerre, hein, c'est une paix séparée. Alors la Russie avait promis, quand elle était la Russie tsariste, de ne pas faire de paix séparée. Et je vous ai même dit que c'est parce qu'on soupçonnait le tsar de faire une paix séparée qu'on avait contribué à son renversement. C'est fait, la paix séparée c'est fait. Alors les alliés sont furieux, parce qu'évidemment toutes les divisions qui étaient sur le front de l'Est vont appliquer sur le front de l'Ouest et les Américains, qui sont entrés récemment dans la guerre, ne sont pas encore là. En fait, on l'a beaucoup exagéré parce que les Allemands savaient déjà que les Russes étaient à la composition. Ils avaient envoyé leur meilleure division sur le front de l'Est. Par conséquent, ce n'était pas un vrai péril. Mais enfin, il se trouvait que de nouvelles puissantes portes allemandes étaient sur le front de l'Est. Alors les Alliés vont prétendre, en fait, hein, vouloir ramener un front à l'Est ou en faire un débarquement à Vladivostok, c'est les Américains. À Archangelsk et à Mourmanc, ce sont les Français et les Anglais, en apparence, hein, en apparence pour créer un nouveau front et faire une diversion. Mais en fait, parce qu'ils ne veulent pas tolérer ce gouvernement bolchevique, un gouvernement communiste, c'est une indignité. Il y a une note de Foch qui a été révélée il n'y a pas tellement longtemps. Foch avait donc gagné la guerre, enfin, ça, la guerre a été gagnée le 11 novembre 1918. Il y a une note de Foch du début décembre 1918, où il dit les forces alliées n'ont pas encore fini leur travail. Il faut absolument faire disparaître le gouvernement soviétique. Donc on veut utiliser les forces des alliés contre un gouvernement dont la contagion serait intolérable. Vous avez d'autres par les Anglais qui vont débarquer à Bakou, oui, c'est à Castel. Vous avez les Turcs qui s'emparent de Batoum, qui est sur la mer Noire. Enfin, il y a toutes sortes de violences arrachant du territoire aux Soviétiques. Et le plus grave, c'est ce qui se passe à l'intérieur même. Parce que des généraux blancs ou des amiraux, il y a un amiral, ça s'appelle Kolchak, il y a deux généraux, il y a un qui s'appelle Denikin, l'autre qui s'appelle Dubenich, qui est fort du groupe des partisans et qui vont tenter de marcher sur, sur Petrograd. Et Moscou, parce qu'à partir du 10 mars 1918, le gouvernement s'est transporté à Moscou, où il est plus loin de la frontière, où les Allemands sont dans un Finlande, ils se trouvent plus protégés à Moscou. Ça sera très grave, vous savez, surtout du côté de Kolchak. Kolchak, c'est un amiral, et il avait des troupes qu'il avait levées, il les payait bien en Sibérie, mais surtout, il va avoir, comment dire, un fer de lance pour son opération, c'est la fameuse Légion tchèque dont on a tellement parlé. De quoi s'agissait-il? Les Tchèques, bah, ils étaient dominés par les Autrichiens, vous savez, dans l'Autriche-Hongrie. Et ces Tchèques n'avaient pas du tout envie de faire la guerre, ils n'avaient pas les mêmes idées que l'Autriche. Alors ils avaient déserté, ils avaient déserté en masse, ils s'étaient rendus quoi, sur le front russe. Alors il y avait une légion tchèque d'environ 40 000 hommes, dont les Alliés se disent, on pourrait maintenant l'utiliser, laisser la traverser à la Russie, enfin même la Sibérie, s'embarquant à Vladivostok, et ils viendront nous aider à combattre les Allemands sur le front de l'Est. Et puis ils se ravisent les Alliés, et se disent, mais surtout pour bien servir cette légion tchèque contre le gouvernement soviétique. Et Kolchak ne manque que ça, cette légion devait traverser, il y en a pas vrai, c'est l'officier qui a déjà très bien payé pour faire mandat de l'Église, on lui a dit non, c'est pas la valise qu'il faut, retournez-vous, n'allez pas vers l'Est, mais allez vers l'Ouest, et on va se servir de vous pour essayer de renverser le gouvernement. Et c'était des gens dangereux. Il y a un moment, à Kazan, nous sommes début d'août 1918, à Kazan, ils jouent sur la Volga, hein. Kazan, ils occupent la rive Est de la Volga, et s'ils franchissent cette ligne, ils vont s'avancer du côté de Moscou. Très grave. Il y a eu un moment, un épisode terrible à ce propos, il faut que je le dise, je n'aime pas raconter ça, mais il faut parce que c'est vrai. Quand ils se sont approchés, les Tchèques, avec Kolchak, de Ekaterinbourg, c'est à Ekaterinbourg qu'on avait mis en surveillance, enfin, ils ont surveillé la famille du tsar. On comprend très bien qu'il ne fallait pas laisser le tsar tomber aux mains de Kolchak pour faire un prestige extraordinaire. Mais ce que je dois vous dire, parce que je le sais, et que c'est navrant, c'est que celui avec un aéro s'est adressé par télégramme, je pense, à Lénine, le seul Marcon, pour demander ce qu'il fallait faire. Ben, Lénine est proscrit, on trouve la responsabilité de dire, faites-les tuer. Tous. Toute la famille, hein, y compris les enfants. Ça s'est passé le 18 juillet 1918. La figure est qu'ils vont arriver quand même à s'en tirer de cette situation qui a l'air impossible, inexplicable. Pourquoi ils vont arriver à s'en tirer? Diverses raisons. J'en vois une qui est très importante. Ces généraux ne se sont pas entendus. Si Jodelis, qui travaille lui dans la région des Pays-Baltes, s'est entendu avec Denikin, qui travaille lui dans la région du Donetsk, s'est entendu avec Kotchak, qui lui travaille au-delà de l'Oural, peut-être qu'ils lui sont emportés. Mais ces gens se détestent. Ce sont des rivaux. Ils ne veulent pas que ce soit lui qui gagne plutôt que nous. Ils ne s'entendent pas. Deuxièmement, une chose très très importante, c'est qu'une armée rouge va être constituée pour de bon, à partir, je crois, du 15 avril 1918. Et Trotsky, qui dirige cette armée rouge, je vous en parlerai plus nettement quand je parlerai de Trotsky, cette armée rouge va accepter, pour avoir des cadres, des officiers tsaristes de l'ancienne armée. 30 000, vous entendez, 30 000 officiers tsaristes qui vont reprendre du service. Peut-être pour protéger eux-mêmes et la famille, peut-être parce qu'on est paysien, des cadres. Et en plus, il faut le dire, hein, des filles qui en voulaient. Au départ, il y avait des gens qui, très peu, je vous l'ai raconté, hein, quand une armée volontaire, très peu de gens, qui peu à peu, à cause du danger que court la Russie, des quantités de types vont entrer là, comme les soldats de Robespierre, dont je me rappelle avoir vu un texte du côté des princes, c'était en février 1794. Les princes, vous savez, c'était le futur Charles X et le futur Louis XVIII, qui disaient, nous commençons à subir des échocs sur le front de France, parce que nous ne disposons que de soldats matériels, ça veut dire des mercenaires qu'on payait. Tandis que Robespierre dispose de soldats passionnés, disait-il. Bien, vous savez, une partie de l'armée russe, c'était des soldats passionnés. Derrière Budyeni, par exemple, les Sakhalins. Alors, ils ont remporté de très grands succès, et militairement, ils vont l'emporter sur tous les assaillants. Ajoutons encore ceci, nos paysans sont furieux, évidemment, parce qu'on va prendre leur terre, mais ils ont encore bien plus peur de leur reparaître l'ancienne aristocratie et l'ancien clergé qui vont reprendre leur terre. Ils ne s'entendent pas avec ce gouvernement soviétique, mais enfin, peut-être qu'on s'en va. Donc, les paysans, finalement, étaient du côté de la révolution. Puis, je résume que ça y est. Alors, ils figurent, les gens des soviets, ils figurent que c'est gagné à la fin de l'année 1919. Fin de l'année 1919. En octobre 1919, figurez-vous que les armées de Denikin étaient arrivées venant du sud jusqu'à Toula, qui est à 200 km de Moscou. Mais on les a repoussés. Alors on croit en 1920 que c'est fini, quoi, ils se disent ça y est, la paix est venue, pas du tout, voilà que la Pologne attaque. La Pologne considère que les territoires qu'on lui a donnés sont insuffisants, puis le sud-sud, c'est une opération militaire qui tournera, il reste au début très mal pour lui, et ensuite, avec un appui militaire français, on va envoyer, nous la France, on va envoyer 2300 cadres, ils ont existé, hein, avec Gauguin, et un certain capitaine Gogol qui sera là pour lutter contre les Soviets. Et ça se terminera très mal pour la Russie par un diktat, vraiment, qui a été imposé à Riga au mois de mars 1921, où la Russie va perdre 250 km en profondeur de territoire, hein, c'est quelque chose, 250 km. Ça va faire une espèce d'Alsace foraine russe, et je vous assure que ça lui vivra lorsqu'il sera le pacte germano-soviétique en 1939. Il faut bien que vous compreniez que ça n'allait pas du tout du côté du prolétariat russe, pas du tout. Il y a une distance qui est un abîme, tout un abîme, entre ce qu'avait annoncé Staline et Lénine et ce qu'il faisait. Lorsqu'ils sont refusés, peut-être vous rappelez-vous, en juillet 1917, à cause des rafles de Kerensky, il s'était réfugié en Finlande. Et là, il avait écrit un travail qui s'appelle l'État et la Révolution. Où il avait annoncé ce que ferait dans sa pensée, loyalement, la Révolution. Il n'y aurait plus d'armée permanente, il n'y aurait plus de police politique. Le salariat aboli. Alors, il disait, qu'est-ce qui se passait? L'armée permanente avait été rétablie, la construction était de nouveau là. Pas de police politique. Et bien, dès décembre 1918, il y avait la CECA. Et que le salariat, je vous assure qu'il avait été maintenu. Hein. Et savez-vous que les ouvriers russes en 1921 étaient moins payés qu'en 1913. En plus, en 1913, ils pouvaient, s'ils l'avaient envie, se défendre par la grève. Défendu. La grève devenait un attentat, un crime d'État, puisque les ouvriers travaillaient au profit de l'État. Alors, c'est pas très étonnant ce qui s'est produit dans un certain nombre de provinces, à Strasbourg d'abord et ensuite à Kronstadt. Comme ça, c'est en mars 1921. Les Soviets ont fait passer ça pour une révolution de garde blanc. Non, c'est pas vrai. C'est d'autre part, d'une part, les ouvriers de l'arsenal de Constable, mais d'autre part, les marins. Qui se révoltaient, les marins qui sautaient. Il y avait une nouvelle fournée de marins, parce que les autres, on les avait tout de même congédiés. D'où ils venaient? C'était des petits paysans, vous savez. Et ils avaient vu ce que c'était que la paysannerie. Ils avaient vu à quel point on était maltraités leurs parents. Alors, quand ils sont à Constable, ben, ils se révoltent. Ils se révoltent au souvenir de la commune. Nous sommes en 1921 et la commune est 1871, ça fait il y a juste 50 ans. Et le parti communiste allait célébrer très glorieusement son anniversaire de la commune. Je veux dire, c'est là un texte qui me frappe beaucoup, ils ont lancé un petit journal, et même les Gilles Vesquias, ça veut dire une nouvelle, je crois. Eh bien, les IGSAS constatent du 9 mars 21 disait ceci, aux protestations des paysans, aux réclamations des ouvriers, obligés par les conditions même de leur vie de recourir à la grève, le gouvernement répond par une férocité, quand envier les généraux arrivent. C'est à fait que ça le constate, et les voisins aussi. Alors Lénine va battre en tête, Lénine va faire la NEP, NEP, ça veut dire Nouvelle Politique Économique, où on acceptera de donner quelques avantages aux paysans, où ils auront maintenant un impôt précis au niveau des réquisitions, l'héritage qui avait été supprimé va être établi jusqu'à conférence de l'euro, enfin pas en arrière. Mais ce pas en arrière, dans l'application de programme, va s'accompagner d'une intolérance encore plus grave à l'égard de tout ce qu'on peut appeler le mouvement déviationniste. Il y avait des gens qui défendaient les ouvriers, ça s'appelait l'opposition ouvrière, avec une femme, Sacha Colonne-Paille, et avec un gars qui s'appelait Sapnikov, qui était sa maman. Interdiction, hein? L'opposition ouvrière, c'est fini. Personne ne doit l'aider. Lénine n'est pas heureux de ce qu'il a fait. Vous savez, quand il va mourir, il a eu une première attaque qui était le 25 mars 1922, première attaque. Il a écrit un certain nombre de textes qui sont publiés au début de 23 dans la Pravda. Et je vous en ai recopié un morceau là. L'appareil d'État soviétique n'est en somme que l'appareil tsariste à peine retint. Les choses chez nous, avec l'appareil d'État tel qu'il est, sont tristes, c'était bien, pour ne pas dire répugnantes. Oui, c'est signé, c'est mis. Bon, j'ai dit une première attaque, seconde, bon, il se soigne à Gorki, Gorki, c'est le nouveau nom de Nizhny Novgorod, on donnait des noms d'hommes aux grandes villes, et puis il a une seconde attaque moins, il a arrêté son travail en octobre, une seconde attaque moins violente en décembre, et se cramponne encore, troisième attaque, c'est déjà très violente, le 10 mars 23, et à partir du 10 mars 23, c'est comme s'il va encore survivre jusqu'au 21 janvier 24. Il n'est plus lui-même, hein, il a disparu de la tête. Alors remarquez qu'il aura eu très peu de temps pour diriger la politique russe. Hein. Il a pris le pouvoir le 8, enfin le 8, quoi, novembre 1917, et pratiquement dès le 20 mars, 10 mars 1923, après déjà une interruption de 4 mois, c'est fini. Il faut que vous sachiez, hein, faut que vous sachiez, que cet homme avait bien contre son gré, mis sur pied un système d'intolérance et de tyrannie dont Staline n'aura qu'à s'emparer. Le système terrible qui consiste à faire croire que c'était une dictature du prolétariat, alors que c'est la dictature d'un parti sur le prolétariat, et qu'à l'intérieur de ce parti, c'est même la dictature d'un petit groupe qui s'appelle le comité central, et au-delà de ce petit groupe, d'un autre tout petit groupe qui s'appelle le Politburo, ça, ça a été établi par Staline, par Lavigne, parce qu'il espérait pas penser ne pas pouvoir faire autrement. Et je souligne, et je répète, ce n'est pas Staline qui a inventé le système. Il en a fait un usage terrible, que vous savez, mais il est très important que l'on sache que lorsque Lénine disparaît, il y a déjà 56 camps de concentration en Russie. Quelques mots sur l'individu. Un homme qui est très intéressant à parler de près. Je voudrais aussi dire tout de suite quelque chose qui me frappe beaucoup, qui est Bertrand Russell, qui ne l'aimait pas à ce moment, qui n'aimait pas le régime, et qui dit. Il a toujours été sans la moindre trace de morgue. Jamais je n'ai vu personne aussi peu disposé à se donner des airs d'importance. Un homme que le pouvoir n'avait pas endommagé d'une miette. Comprenez-moi, presque tous les grands hommes, enfin, chefs d'État, se constituent un personnage. De Gaulle l'a fait, hein. Hitler, Dieu sait, Mussolini aussi, un homme comme Byron avec une position extérieure, un homme comme Garibaldi prenait une sorte d'attitude. Lénine, pas. Lénine, quand il était au pouvoir, était exactement le même qu'il était, mais c'est ça, quand il était le petit révolutionnaire caché à Berne ou à Zurich. Un homme qui n'aimait pas l'argent, qui ne profitait absolument pas du pouvoir. Oui, il était logé au Kremlin, dans trois petites chambres, on mangeait à la cuisine avec la femme de ménage parce que sa femme travaillait. C'est un homme qui n'a pas été gâté une seconde par le pouvoir. Il y a une phrase de Gorki qui m'a beaucoup frappé. Gorki a écrit aussi quelque chose lorsque Lénine est mort. Et il parle de l'orateur, et il dit que c'était très frappant chez l'orateur, c'est qu'il ne faisait pas d'art oratoire, justement. Je ne voudrais rien dire de méchant sur un homme qui avait ses mérites, qui était connu par ses prêtres, je ne sais pas le faire bien, je parle d'Edouard Herriot. Edouard Herriot, vous savez, c'était l'éloquence officielle. Il parlait avec des majuscules, et s'amenait toujours par d'admirables envolées. Chez Lénine, jamais envolé, hein. C'est un homme qui veut expliquer les choses, il dit voilà la situation est telle, voilà ce qu'il faut faire, et la phrase de Gorki est la suivante, ses paroles. Je vous le dis maintenant, c'est très beau, ses paroles brillaient dans l'air. Avec le froid éclat de copeaux métalliques. Je peux vous dire aussi que ceux qui l'approchaient l'aimaient. Il avait deux de ses sœurs qui ont travaillé près de lui, il avait un beau-frère qui s'appelait Elizarov, qui était vraiment passionné pour lui. Il était aimé des enfants, lui qui n'avait pas d'enfants. Il était aimé des enfants. Les photographies que nous avons de Gorki, je veux dire de l'endroit Gorki où il a été soigné, le montre souvent avec son petit neveu, si sa sœur s'appelle Victor. Si vous regardez bien les photos, vous pouvez le voir. statue contre lui. Je sais, il a fait une vieille horreur, et il le savait lui-même, puisqu'il dit, ceux qui espèrent qu'une révolution soit propre, espèrent en vain. Les révolutions ne sont propres que dans les livres. Écoutez ce que je vais vous dire maintenant, c'est un texte de livre de 1922 que je trouve terrible, de lucidité. Notre chemin est effroyable, nous sommes contraints de ramper dans la boue, il a dit ça, de ramper dans la boue et de nous abriter au sol avec nos sangles et avec nos dents. Il y a un récit de Gorky qui m'a beaucoup frappé. Gorky dit, il n'aimait pas prendre d'illustration, mais je l'avais traîné une fois chez une pianiste, il avait entendu du Beethoven, et je regardais Gorky pendant qu'il écoutait le Beethoven, et son visage était assez changé. Et après, il me prend par le bras, et dit, et mais il ne recommençait pas, Gorky ne recommençait pas. Quand j'entends cette musique-là, j'ai envie d'embrasser tout le monde. C'est dans le métier que je sais, qui est un métier infernal, il ne s'agit pas d'embrasser, il faut taper sur les têtes et encore taper. Il y avait au moins chez lui la connaissance précise de ce qu'il était obligé de faire. Si vous regardez sa pensée métaphysique, elle est courte. J'ai lu, je vous en parlais la dernière fois, matérialisme en période physique, et mon sentiment à moi ne compte pas parce que je suis chrétien, mais je vais vous citer la parole de Sartre, qui, si je sais, n'est pas chrétien, et qui dit c'est un livre misérable, il y a une pensée très critique, c'est-à-dire comme si Kant n'existait pas. Si j'aurais vu que Lénine en croit encore que la sensation est un reflet de la réalité, alors qu'on sait très bien que c'est un reflet transposé. Il est en art aussi très conservateur, ça lui n'aimera pas du tout Majakovski. Majakovski, qui est tout de même quelqu'un, à mon avis, d'assez admirable, ne tiendra plus le papier nécessaire pour se faire entraîner. Il va dire sur Tolstoï des choses qui me peignent. Il dit, il a fait deux articles sur Tolstoï, un en 1808, en 1881, et un autre en 1810, à la mort de Tolstoï. Il dit qu'un grand écrivain, quand même, qui avait le sentiment de l'injustice, mais écoutez-moi bien, abruti par la bigoterie. Ça, c'est énorme de parler de bigoterie pour un homme qui avait été excommunié par l'Église. Alors, je voudrais finir là-dessus et vous apporter d'abord un texte de Jaurès, et ensuite un tout petit texte que je sors de mémoire sur chaque colonne sale. Le texte de Jaurès, le voici. Il est très peu connu, ça a été prononcé par Jaurès à Toulouse le 10 février 1911, c'est un hommage à Tolstoï. Nous lui devons, disait Jaurès, une singulière gratitude. Que de fois j'ai remarqué dans Paris que l'unissement brutal des lumières d'en bas j'empêche de voir les étoiles, la clarté supérieure. Les patrons sont obsédés par leurs entreprises et leurs gains. Les travailleurs engloutis dans le désordre économique n'émergent comme ça, n'émergent de la bouche et du front que pour un cri de revendication. Et nous autres, les hommes politiques dans la bataille, nous sommes en péril nous aussi, à chaque incident. D'oublier qu'avant tout nous vivons notre condition d'homme, que nous sommes pris dans le mystère de l'existence. La grande aventure de vivre dans un univers démesuré, Tolstoï nous rappelle qui nous sommes. Il nous aide à lever les yeux vers les constellations. Jaurès. Écrit bien ceci maintenant. C'est mémoire Sacha Kollontai, qui était devenue à la fin de sa vie ambassadrice des soviétiques. C'est très bien installée à Stockholm, je crois. Et écrit des mémoires, qui peinent d'intérêt. Elle raconte ceci, que dans l'hiver 1919-20, Raymond Sommercom, elle avait le portefeuille de la santé, elle était arrivée un peu trop tôt. Elle s'est trompée d'heure, vraisemblablement, par conséquent, quand elle pousse la porte où la réunion du Sommercom devait avoir lieu, c'est tout noir. Alors elle avait refermé la porte, raconte-t-elle, quand elle s'aperçoit qu'il y a une silhouette qui est debout contre une des fenêtres. Il y avait de grandes fenêtres dans cette salle, c'était l'hiver, c'était déjà la nuit, mais la nuit était claire, il y avait beaucoup d'étoiles. Elle regarde cette silhouette, quelqu'un qui regardait par la fenêtre, plein de soleil. Alors elle s'avance, c'est comme Lénine, pas attendu, elle s'avance là. Et Lénine entend marcher derrière lui. Alors elle se retourne. Et je vous cite le mot qu'elle a employé elle-même, avec un visage comme je ne lui connaissais pas. Une expression étrange et indéfinissable, il me dit presque en bafouillant les étoiles. Et puis sortant tout de suite, il tourne le commutateur et dit à Sacha Kollontai, allons travailler. 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 Et dit à Sacha Kollontai, allons travailler.